The internet is a way to connect to the world.
Ici en Palestine, l'internet c'est un moyen de rencontrer le reste du monde.
Especially that your that each city or village or neighborhood is isolated from the rest of the cities and villages around it.
Parce que pratiquement chaque ville, chaque village est coupé du village ou de la ville d'à côté.
So we use the internet to connect with people in Jerusalem, which is 10 minutes from us.
On se sert d'internet pour se connecter avec les gens de Jérusalem qui sont en fait à 10 minutes par la route de chez nous.
But we cannot go there and physically be there to connect with people. We do it through the internet.
Mais comme on peut pas y être physiquement, ben c'est par internet qu'on fait des relations. Ouais.
Un dromadaire sur l'épaule, Cyril Desprats et Monsieur T.
Bonjour à tous, bienvenue en Cisjordanie avec les carnets de route d'Anne Brunswick qui nous emmène tout de suite sur la place Al-Manara de Ramallah.
Ce qu'on entend, c'est le bruit des tasses de café. Et évidemment, ce qu'il n'y a pas dans le reportage, c'est le parfum de ce café merveilleux qui est un café à la cardamone. Alors, le monsieur qui sert ça, il a un immense thermos et il sert le café surtout aux chauffeurs de taxi qui sont juste à côté. Alors, on est toujours sur la place Al-Manara. On pourrait passer son temps sur la place Al-Manara à décrire tout ce qu'on voit. Là, c'est un marchand de tapis, mais il a aussi des dessins qui sont... Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a, Arafat qui est à gauche... Il y a le Christ, Arafat est à droite, le Christ est à gauche.
You see it?
Ah, Barack. Il vient d'en faire un tout nouveau. C'est Barack Obama qui porte la colombe de la paix.
Le retour à Ramallah aujourd'hui, Anne Brunswick, petit café, découverte de cette place Al-Manara. Elle ressemble à quoi ?
Bonjour Cyril. Alors cette place Al-Manara, c'est en fait au centre de la place, il y a théoriquement une fontaine, mais il n'y a pas d'eau dans la fontaine. Il y a quatre lions qui sont aux quatre points cardinaux. D'un côté, on a la route qui mène à 500 mètres au siège de la présidence palestinienne. Dans une autre direction, on va vers la station des autobus, la gare routière et le marché. Et puis après, on a dans une autre direction encore la rue principale de Ramallah. Et il y a une circulation permanente de taxis. Ils sont tous jaunes là-bas, les taxis individuels ou les taxis collectifs. Et puis, il y a de temps en temps un agent de la circulation qui fait un véritable balai pour se glisser entre les voitures. C'est assez spectaculaire. Je pourrais faire un reportage spécial juste sur cet agent de la circulation.
Où apparemment, on parle, en tout cas, on voit des choses qui ont lien avec la politique. Qu'est-ce que vous avez l'impression, c'est très subjectif bien évidemment, Anne Brunswick, mais qu'est-ce que vous avez l'impression que les gens sur la place d'Al-Manara, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui, ces jours, suite aux élections israéliennes ?
On parle politique tout le temps, place Al-Manara. D'abord parce que c'est là que se tiennent tous les meetings, tous les rendez-vous politiques. Maintenant, en ce moment, j'ai l'impression, comme le disait en début de semaine Benjamin Barthes, qu'il y a une grande indifférence du côté palestinien pour les enjeux politiques internes à Israël, dans la mesure où les Palestiniens sont un peu blasés. Ils ont vu et la droite et la gauche à l'œuvre en Israël et ils n'ont pas vu beaucoup la différence. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a une grande indifférence.
Est-ce qu'on trouve des librairies sur la place Al-Manara ?
On trouve une petite librairie papeterie à 10 mètres de la place. Oui, on vend à la fois les journaux palestiniens, des journaux israéliens d'ailleurs, parce que les gens s'intéressent aussi à l'actualité israélienne quand même de temps en temps. Et puis des livres. Oui. C'est pas une grande librairie, mais enfin, il y a ce qu'il faut.
Si je vous pose cette question, c'est parce qu'à côté de vous, dans le studio de Paris, il y a Farouk Mardambé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain. Vous êtes éditeur, vous êtes directeur de la collection Simbad chez Actes Sud, une collection qui est consacrée à la littérature arabe contemporaine. Vous êtes né à Damas. Est-ce que vous connaissez les librairies de Ramallah, de Naplouse, de Cisjordanie ?
Non, malheureusement, je ne les connais pas. Mais je sais que ces dernières années, il y a eu un mouvement très important dans le domaine du livre. Il y a un salon du livre qui est organisé à Ramallah et qui a accueilli beaucoup de monde. Mm-hmm. Et les Palestiniens sont très ont faim de et soif de lecture. Ils ne reçoivent pas tout ce qu'ils voudraient recevoir comme publication qui viennent du reste du monde arabe, mais il y a aussi un mouvement éditorial en Palestine même, aussi bien déjà en Palestine, en Cisjordanie et à Gaza, mais aussi dans le territoire israélien, dans une ville comme Acre, par exemple, ou Nazareth, où il y a des maisons d'édition qui publient en arabe. Mmh.
Alors vous êtes un pont, quand même, entre la culture arabophone, entre ce monde arabophone, entre les auteurs palestiniens, syriens, libanais, égyptiens et l'Occident. J'imagine que c'est pas facile d'être un pont entre ces cultures-là.
Pourquoi ? C'est au contraire, c'est très agréable. C'est très agréable d'être un passeur de culture arabe vers la France, vers l'Europe, vers l'Occident en général, et puis aussi de jouer un rôle de rapprochement entre les différents pays arabes aussi. Mm-hmm. Vous savez, toutes les quand on parle de littérature palestinienne, de littérature syrienne ou libanaise, bien entendu, ces littératures ont leurs spécificités, mais elles participent toutes d'un même mouvement. On y retrouve les mêmes courants de pensée, les mêmes sensibilités poétiques, romanesques. Et il y a une continuité, disons, entre la production culturelle et notamment littéraire à l'intérieur de la Palestine et le reste du monde arabe. Mmh.
Vous nous expliquerez tout cela, Farouk Mardambeh, en seconde partie d'émission. Vous nous direz ce qu'essaye de dire, ce que dit cette littérature, cette culture palestinienne, comment elle existe dans la situation politique actuelle, comment elle se profile aussi par rapport à ses sœurs des autres pays arabes. Ce sera après votre reportage, Anne Brunswick, première rencontre. On reste à Ramallah. Et est-ce qu'on est près de cette place Al-Manara où vous allez nous emmener maintenant ?
Absolument, on est à 150 mètres ou 200 mètres de la place Al-Manara et on va pousser la porte du centre culturel franco-allemand voilà, qui existe là depuis quelques années. Et qui, enfin, il y a eu un rapprochement il y a quelques années entre le centre culturel français et le centre culturel allemand et c'était un symbole peut-être aussi de paix et de réconciliation que de vouloir que de proposer un centre commun là-bas à Ramallah.
Voilà. Et là vous rencontrez ?
Alors je rencontre un monsieur qui est à la réception et qui s'appelle monsieur Aref Jabr. C'est un monsieur.
Je suis un employé du Centre culturel français à Ramallah il y a maintenant 5 ans à peu près. Je suis le réceptionniste ici, je suis responsable pour accueillir le public. Normalement, le centre culturel français s'occupe d'événements culturels et pas forcément de questions de consulat, de visa et de choses comme ça. Mais quand même, Israël oblige les Palestiniens d'avoir une autorisation pour aller à Jérusalem.
Et
étant donné que le consulat se trouve à Jérusalem-Ouest, on ne peut pas y aller. C'est-à-dire, toutes les questions concernant le visa, les choses pareilles, sont posées ici. Assez souvent, malheureusement, la règle ou bien les règles changent.
C'est-à-dire, concrètement, c'est plus restrictif aujourd'hui, c'est plus difficile aujourd'hui.
Un petit peu.
Un petit peu.
Un petit peu.
Mais... Je vous laisse répondre au téléphone. Hein. Mais non, c'est votre.
C'est ça, peut-être. Ça va rentrer.
Vous avez beaucoup de demandes qui concernent le consulat,
oui,
en fait.
Par exemple, maintenant, c'était une demande, c'était quelqu'un qui a demandé est-ce que son passeport est déjà arrivé ou bien combien de jours il faut attendre jusqu'à ce que le passeport va arriver. Alors, ce sont des questions normalement posées au consulat même, s'il s'agissait de conditions normales, mais ce n'est pas le cas ici. Oui.
Dites-moi, où est-ce que vous avez appris ce français si merveilleux que vous parlez ?
Alors, c'est peut-être étonnant, mais c'était ma tante qui m'encourageait de commencer à apprendre le français. Et ma tante, qui habite maintenant à Genève, en Suisse, il s'agit d'une dame âgée, mais quand même, elle parle français, elle parle allemand. Elle m'encourageait bien et elle m'a envoyé un dictionnaire de Genève. Alors, c'était bien. Et maintenant, je lis assez souvent en français, en allemand, parce que je parle allemand aussi. Et maintenant, je suis sûr 100% que la connaissance d'une langue, c'est un trésor.
Alors dites-moi, comment votre famille est venue à vivre ici?
En effet,
vous avez circulé?
Non, alors circulé, non. Je suis né à Amman, en Jordanie, il y a 55 ans. Mais mes parents, qui sont palestiniens, moi-même, je suis palestinien, mes parents ont décidé 1954 de s'installer à Ramallah. Et c'était le bonheur, c'était mon bonheur de loger ici, d'habiter ici.
Vous étiez tout petit quand vous êtes arrivé ici, oui, il y a 2 ans, et vous avez eu toute votre enfance.
Exact.
Quelle était la profession de votre père?
Mon père était électromécanicien. Oui. Il s'est occupé, il a réparé des appareils électroniques. Ce n'était pas une profession bien payé, alors c'est-à-dire il a gagné assez pour nous supporter, et c'était bien.
Pour soutenir la famille. Vous étiez une grande famille?
Oui, nous étions 4 frères et une sœur. Et malheureusement, un frère est décédé il y a à peu près 20 ans. Il était jeune, il était malade, il est décédé, mais nous sommes maintenant 3 frères et une sœur. Et nous habitons ici, mon frère, ma sœur et moi-même, et aussi mes frères, mes autres frères habitent ici. Et, partie du travail. Nous avons des Palestiniens qui ont vécu en Palestine, à Jaffa, à Jérusalem-Ouest, et qui étaient obligés, à cause de l'occupation israélienne, de quitter leur propriété et tout ça. Et ensuite, on était obligés de trouver un logement, et c'était le cas de mon père, de ma tante, et aussi mon oncle qui a vécu, et il est décédé aussi aux États-Unis, sa famille est là. C'est très normal. Je pense que chaque famille palestinienne pourrait vous raconter des histoires pareilles. Mais malgré ça, on est content. Nous sommes ici, maintenant, en Palestine. Alors, c'est ironique un petit peu. Les Israéliens ont fait l'impossible de nous jeter je ne sais pas où. Mais malgré ça, nous sommes là.
Finalement, vous n'êtes pas très très loin du point de départ de votre famille. Hein?
Non.
Si c'était, vous êtes parti de Jérusalem-Ouest pour Ramallah, alors on est à 12-15 kilomètres,
oui,
même pas.
Exactement.
Vous avez déjà vu la maison de votre famille?
Oui, une seule fois ou bien deux fois. C'était 1967, accompagné de mon père. C'est bien. On reste dans l'espoir qu'une fois, on ne sait pas quand, on va trouver une solution ensemble, avec ceux qui sont là ensemble, on va trouver une solution qui conviendra pour les deux côtés. C'est difficile, je sais, c'était le rêve de mon père de vivre ici dans la patrie. Alors, ensemble avec ceux qui sont venus, nous n'acceptons pas l'occupation de notre pays, mais quand même, nous sommes réalistes, c'est-à-dire il faut travailler le deux côtés ensemble pour un but qui est bien pour les deux. C'est pas seulement pour nous. Il faut bien trouver une solution soutenue par la France, soutenue par l'Europe, soutenue par les États-Unis et les autres.
Vous ne parlez pas de religion. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut faciliter la solution du problème ou au contraire la compliquer?
Non. Alors, tout d'abord, la religion reste pour moi une question personnelle. C'est-à-dire, la religion, pour moi, c'est une relation entre Dieu et moi-même. Mm-hmm. Point. En ce qui concerne les autres, ça m'est égal. Est-ce qu'il s'agit d'un catholique, de personne dont la religion est juive? Alors, il faut prendre les gens sans religion. Mm-hmm. Au même temps, il faut bien respecter la religion. Et je pense, comme ça, on peut avancer.
Mm-hmm. Vous avez été élevé dans quelle religion?
Et alors, mon père était Christ.
Chrétien, oui.
Chrétien. Christ. Christ. Et ma mère est musulmane.
Ah, donc vous êtes issu d'un mariage mixte, comme
exactement,
on dit.
Exactement.
C'est assez rare comme situation ici. Hein.
Oui, assez rare, je pourrais ajouter. Mais moi-même, alors, je suis, en ce qui concerne la religion, plus chrétien comme musulman, mais je respecte les deux.
Alors, parlez-moi un petit peu de vous. Vous avez fait sûrement beaucoup de métiers avant d'arriver ici.
Oui, exactement. Regardez-moi. Non, noch nicht. Ja, hast du recht, dann rufe ich ihn an, vielleicht sagt er uns, wann antwort dann.
Je vois que dans la vie de tous les jours, vous parlez tous les jours trois langues, hein, l'arabe, le français et l'allemand, et vous passez de l'un à l'autre, hop, comme ça, instantanément.
Oui, alors, j'apprends des langues avec plaisir. Alors, tout d'abord, j'ai appris l'anglais ici à Ramallah, pendant mon enfance et ensuite, j'étais un étudiant
en Hongrie.
À Budapest,
vous étiez, non?
À Budapest, exactement. Et je parle aussi hongrois.
Oh, oui, c'est merci. Une langue difficile, hein, le hongrois.
Un petit peu, parce que totalement différent. En ce qui concerne mon métier, je suis électrotechnicien.
C'est-à-dire comme votre père, vous avez appris le métier de votre père. Hein?
Exactement, et j'ai déjà travaillé dans plusieurs entreprises ici à Ramallah. J'étais responsable pour les ordinateurs et ensuite j'ai travaillé à l'université de Birzeit. Et c'était la bonne chance de travailler là, qu'on m'a promis de m'envoyer en allemand pour une formation. Mais la condition était d'apprendre la langue allemande, et j'ai déjà commencé. Et c'était le début de l'amour avec la langue allemande, c'était comme ça. C'était 1997. Ces projets étaient nuls ou bien étaient annulés à cause d'un manque de fonds. Et c'est le cas chez nous, normalement. Mais j'ai gagné la connaissance de la langue allemande.
Alors ce soir, on est au Sinatra, au Café Sinatra à Ramallah. Et il y a une vidéo qui a été créée par une jeune femme qui s'appelle Alouane et une bande musicale, un DJ. Je vais me rapprocher du DJ tout à l'heure quand il y aura une pause. On est dans un grand café sur une terrasse couverte. Comme il fait très froid ce soir, on a allumé des radiateurs portables. Voilà, ils vont les mettre vers nous. Alors ce soir ici on danse, on fume le narguilé, il n'est pas question de foulard ni de quoi que ce soit.
Le café Sinatra de Ramallah, apparemment lieu branché de cette ville, Anne Brunswick. C'est là où vous avez rencontré un représentant, un acteur de la culture underground de Cisjordanie.
Oui, hors des cafés comme ça à Ramallah, il y en a quelques-uns. Hein. Le Sinatra n'est pas tout ça, c'est une ville assez vivante où on peut boire de l'alcool le soir, etc. Donc ça la rend plus agréable aussi pour nous. Mm-hmm. Et j'ai rencontré effectivement le DJ qui s'appelle Basel, et puis j'ai rencontré Rouan, qui est d'ailleurs la fille d'une intellectuelle connue en Palestine, et qui elle fait les vidéos, qui est une artiste vidéaste. Voilà.
Mm-hmm. On va retrouver Basel qui vous a raconté son parcours artistique.
I wanted to take music seriously, still at a very young age, so I started learning guitar.
Très jeune, j'ai voulu apprendre la musique de manière sérieuse, et donc j'ai commencé à étudier la guitare.
And then I, you know, I got introduced at some point trip hop music and electronic music.
Quand j'ai découvert le trip hop, ça m'a vraiment intéressé. J'ai eu envie d'entrer là-dedans. Oui. Alors, on va dire que le trip hop, c'est une musique qui a à voir avec le hip hop et avec la musique électronique.
Hein. And rock.
Et avec le rock.
So, so that's when I stopped playing guitar.
À ce moment-là, j'ai arrêté de jouer de la guitare.
And I started exploring making music on the computer.
Et j'ai commencé à travailler, à faire de la recherche musicale sur l'ordinateur. Quel âge avez-vous?
25.
Donc, Aswad a 25 ans.
I learned sound engineering and, you know, using computers, making music, making electronic music using computers and university.
À l'université, j'ai étudié donc la profession d'ingénieur du son et puis aussi donc la composition électronique, oui.
A bit of it was in Serbia, a bit of it was in Scotland, and I finished in London.
J'ai commencé mes études en Serbie, après en Écosse et pour finir à Londres. Si vous voulez bien me parler de la vie musicale à Ramallah telle qu'elle est vécue par la jeune génération.
Ramallah is, you know, is a closed kind of space and it's a small place, you know, there's not many people.
Alors Ramallah c'est un endroit assez fermé et puis c'est un endroit relativement petit, il n'y a pas énormément de gens ici.
So there's no actual scene that develops in terms of one type or that type of musical genre. The scene here is more and a scene of artists or an artistic scene, which is good also in a way because, you know, you meet artists that do different kinds of arts and they appreciate each other's art.
Finalement, ici, on rencontre surtout des artistes qui font de la musique et le public pour la vie musicale, c'est d'autres artistes qui font de la musique, ce qui peut être assez excitant.
Basically, we made a group called Ramallah Underground.
Alors, notre groupe s'appelle Ramallah Underground.
It started off as an idea for a website, maybe 6 years ago.
L'idée au départ, c'était un site web il y a 6 ans.
It started during the Intifada.
Ça a commencé pendant l'Intifada, c'est-à-dire en 2002.
Actually, the first hip-hop song that we wrote was during the curfew, and it was about the curfew.
La première chanson hip-hop qu'on a faite, c'était pendant le couvre-feu, et c'était sur le thème du couvre-feu. Ouais.
Basically, before it was instrumentals with no lyrics.
Jusque-là, on n'avait que des parties instrumentales, et c'est à ce moment-là, c'est à partir de 2002 qu'on a commencé à composer des textes.
And I think we felt at that point that, you know, although the music we were making was an expression of what we were going through, we bien felt we needed words to kind of make it even a more powerful message.
Bien sûr, la musique qu'on composait avant, d'une certaine manière, elle exprimait notre expérience. Mais c'est vrai qu'à partir de 2002, on a eu besoin de mettre aussi des mots sur cette expérience.
So it started off as a website. We wanted to, during that time, because we were enclosed inside Ramallah, we wanted to promote alternative or different arts from Palestine, or from Ramallah more specifically, to the outside world. So we made this website.
Donc l'idée de ce site web, c'était parce qu'on était très enfermés et qu'on voulait faire passer au reste du monde un peu une image de ce que c'était que notre vie musicale ici à Ramallah et notre vie tout court. Oui.
And we started making more songs like that. We would talk about social issues, we would talk about the political situation we live in and how hard it is for us. Another subject we would tackle is how hard it is for us to make it as independent musicians as well.
Donc après, on a composé d'autres chansons sur d'autres thèmes, des thèmes, on va dire, sociaux, quoi, un peu de nos revendications, et puis toutes les difficultés que nous rencontrions dans notre vie quotidienne, et puis aussi la difficulté aussi d'être un musicien indépendant ici à Ramallah.
And also, along with the hip-hop, we kept making instrumental tracks that would basically, you know, we would use samples from old Arabic films, we would use, you know, to make our political statement and make create music that kind of describes the feeling of what we were going through.
Et donc, dans nos compositions instrumentales, cette fois-ci, on introduisait des samples avec des musiques qui viennent de films arabes traditionnels, hein, classiques. Ces vieux films que nous utilisions et ces vieilles chansons aussi arabes traditionnelles que nous introduisions dans nos compositions modernes, elles nous permettent d'exprimer ce que nous ressentons. Oui.
Right now, because of the situation in Gaza, we're working on a series of instrumentals about the Arab world and about Gaza and what's happening in Gaza.
En ce moment, comme il y a les événements de Gaza, on est en train d'écrire et de composer quelque chose sur à fois ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe dans le reste du monde arabe. Oui. Est-ce que vous pouvez parler des autres copains du groupe?
You know, Ramallah Underground is me and two other guys.
Donc Ramallah Underground, c'est moi et deux autres copains.
They're both university students.
Ils sont tous les deux étudiants à l'université.
One studies business.
Un étudie donc le business, l'économie.
Another one does IT, information technology.
L'autre fait de l'informatique.
And he studies, one of them studies in Birzeit University and the other studies in Vienna.
Voilà, il y en a un qui est étudiant ici à l'université de Birzeit, c'est l'université la plus proche de Ramallah, et l'autre à Vienne, in Austria, hein? Vienne, en Autriche, oui.
Even our songs are distributed for free through the internet.
Et nos chansons sont distribuées aussi gratuitement sur l'internet, oui. Bon, vous vous êtes fait connaître à travers votre site internet Ramallah Underground et vous êtes en plein dans la culture internet. Alors, est-ce que cette culture internet, elle est partagée par beaucoup de jeunes ici en Palestine et dans le monde arabe?
I think in Palestine specifically, the internet is a way to connect to the world.
Ici en Palestine, l'internet c'est un moyen de rencontrer le reste du monde.
Especially that each city or village or neighborhood is isolated from the rest of the cities and villages around it.
Parce que pratiquement chaque ville, chaque village est coupé du village ou de la ville d'à côté.
So we you know, we use the internet to connect with people in Jerusalem, which is 10 minutes from us.
On se sert d'internet pour se connecter avec les gens de Jérusalem qui sont en fait à 10 minutes par la route de chez nous.
But we cannot go there and you know, physically you know, be there to connect with people. We do it through the internet.
Mais comme on peut pas y être physiquement, ben c'est par internet qu'on fait des relations, oui.
And you know, that includes from promoting our things to collaborative works with other artists to, you know, I mean, it happens all over the world now, but specifically in Palestine, it's really needed.
Alors évidemment, ça se passe dans le monde entier, mais pour nous, c'est particulièrement utile en Palestine parce qu'on n'a pas vraiment d'autres moyens d'être physique. On ne peut pas être physiquement en présence avec les gens, donc la collaboration, eh bien oui, elle se passe par Internet d'une manière très très importante.
So I think it's the most important thing for Ramallah Underground because if, you know, in terms of making Ramallah Underground known, if it wasn't for the Internet, we really wouldn't be known. We wouldn't get concerts or anything. You know.
C'est par l'internet qu'on s'est fait connaître. Ça a vraiment été très important pour nous. Et il n'y aurait pas de concert aujourd'hui de Ramallah Underground s'il n'y avait pas eu d'abord notre site web.
And because our country is not, you know, is not easy to live in, we have to, you know, we sometimes have to travel to work to pay the rent. Sometimes, like the third guy, he's in Vienna studying. So if it wasn't for the internet, the work would stop when someone left. You know.
Comme c'est difficile de gagner sa vie ici, on est souvent amené à aller à l'étranger pour gagner sa vie. On a un de nos partenaires qui est actuellement à Vienne. Donc sans l'internet, ben nous on pourrait pas s'en sortir. Vous parlez du monde arabe, est-ce que vous pensez que cette musique elle peut aussi intéresser des occidentaux?
You know, there are a lot of Westerners that are interested. Most of our shows have been actually outside the Arab world.
En fait, la plupart de nos spectacles ont été montés en dehors du monde arabe et il y a beaucoup d'occidentaux, d'européens qui sont intéressés.
but it's for different reasons. You know, sometimes there are people that support the cause of Palestine, so they come to our shows.
Alors, il y a des gens qui viennent à nos spectacles parce qu'ils soutiennent la cause palestinienne.
Others are very much hip-hop fans, so they're into the technical aspect of hip-hop, so they come and see the hip-hop.
D'autres, c'est vraiment des fans de hip-hop, et eux, ce qui les intéresse, c'est la technique du hip-hop.
And others find it really exotic, for that there's some Palestinian or Arab artists that express themselves in that way.
Et d'autres trouvent ça vraiment exotique de voir des artistes palestiniens, des artistes arabes s'exprimer à travers le hip-hop.
But in Palestine and in the Arab world, you know, they understand our lyrics very well, and they know, you know, what kind of thing. And there's a lack of alternative experimental music in the Arab world in general.
Mais dans le monde arabe, on apprécie bien nos paroles, on les comprend. Et puis, il n'y a pas beaucoup de formes alternatives d'art et de musique contemporaine aujourd'hui dans le monde arabe. Voilà. Est-ce qu'on arrive à avoir de l'argent ici du gouvernement ou d'ONG pour faire ce type d'action?
We haven't tried to apply or anything to any kind of fund because we're really very specific on being, you know, on staying the same in terms of evolving musically, obviously, and learning more. But in terms of our political messages and the way we create our art, we'd like to kind of keep it that way and not have external.
En fait, on n'a pas demandé d'argent parce qu'on est très regardant et on veut absolument conserver notre indépendance et la liberté de notre message politique. Est-ce qu'on peut vous entendre à la radio ici, sur les radios palestiniennes?
Our music has been played in radios around the world.
Notre musique.
And in Palestine, it has been played, but it's not like a regular thing that gets played.
Donc, c'est arrivé que notre musique soit jouée à la radio, mais on peut pas dire qu'elle soit jouée régulièrement. Et puis, c'est arrivé aussi qu'on l'entende sur d'autres radios dans le monde. Hein. Vous pensez que le message que vous avez est un peu subversif?
Not in Palestine, but definitely for the Arab world.
Alors, c'est pas un message considéré comme subversif en Palestine, mais certainement pour le monde arabe.
In Palestine, there's no really politics as part of everyone's daily life.
Ici en Palestine, la politique ça fait partie de la vie quotidienne de tout le monde.
So everyone knows politics, everyone is talks about politics, and there's no censorship.
Ici, tout le monde parle de politique, tout le monde est politisé. On peut pas dire qu'il y a une censure, en tout cas une censure évidente.
However, in the Arab world, there is censorship towards these things.
Mais dans le reste du monde arabe, oui, il y a une censure.
We've done shows in different Arab countries.
On a donné des spectacles dans différents pays arabes.
We felt we had to maybe not do a couple of songs because they were too in your face.
On a retiré une ou deux chansons de notre programme parce qu'on pensait qu'elles étaient un peu trop provocatrices. Provocation, you mean.
Yeah, exactly. I mean, all our lyrics are very metaphorical.
Toutes nos paroles sont très métaphoriques.
But there's a few tracks that have straightforward lines.
Mais il y a de temps en temps des textes qui sont très très directs, voilà, avec des paroles très très directes.
And we felt we couldn't perform these in places like Cairo, Dubai and Amman, Jordan.
Voilà. Au Caire, à Dubaï ou à Amman en Jordanie, c'était pas exactement le genre d'endroit où on peut dire ce genre de choses.
But in Palestine we can say whatever we want.
Mais en Palestine, on peut dire ce qu'on veut. You said so far.
So far. Yeah.
Jusqu'à présent.
Bambla bokpa ogloupe Cyril Desprats emenyon klaté.
Voilà, c'était Ramallah Underground, groupe dirigé par ce jeune Basel. On a mis un lien sur notre site à nous, dromadaire.rsr.ch, sur le site de Ramallah Underground. Allez-y, c'est intéressant. On voit des vidéos. Ils ont aussi un site MySpace et Facebook. Farouk Mardambé, vous êtes toujours en direct avec nous de Paris. Je rappelle, vous êtes écrivain, vous êtes éditeur, vous êtes directeur de la collection Simbad, collection spécialisée dans la littérature arabe contemporaine chez Actes Sud. Vous avez entendu le reportage d'Anne Brunswick. Une réaction peut-être à ce témoignage, à ce portrait du leader des Ramallah Underground?
Eh bien, la réaction est que cette culture est très vivante. Ce sont des gens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, qui ne peuvent pas circuler, qui sont coupés les uns des autres par des barrages, par un mur affreux. Et malgré tout, ils résistent par la création artistique, littéraire. C'est formidable. Et puis, ils s'expriment très librement. Ils ne s'expriment pas que sur des thèmes politiques, mais sur tout ce qui concerne leur génération. Ce sont des jeunes et qui ressemblent à d'autres jeunes de partout dans le monde.
Mmh. Cette liberté, cette indépendance d'esprit qu'on entend chez Basel, y compris par rapport aux autres pays arabes, est-ce qu'elle vous semble particulière, spécifique en Palestine? Est-ce que c'est un lieu, paradoxalement, est-ce que Ramallah est un lieu de liberté particulier dans le monde arabe?
Il faut dire, il y a une revendication de liberté de la création partout dans le monde arabe. Et on trouve des jeunes comme Basel qui, de Casablanca à Bagdad, même maintenant Bagdad dans la situation affreuse où elle se trouve, qui produisent et qui essayent de transgresser ce que nous appelons, nous, en arabe, le triangle de l'interdit. Le triangle de l'interdit, c'est religion, politique, sexualité. Alors, bien entendu, il y a une censure partout, mais ces créateurs de toute génération transgressent cette censure et parviennent souvent à transmettre leur message. Alors, ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer sur tel ou tel thème au Caire peuvent l'exprimer à Beyrouth ou vice-versa, ce qui fait qu'il y a une circulation quand même des biens culturels entre les pays arabes. Pas autant que nous l'aurions souhaité, mais quand même, il y a une circulation qui existe et qui est réelle.
Quelles sont les stratégies mises en place pour contrer ou pour contourner plutôt ces trois tabous que sont le sexe, la religion et la politique ?
Justement, bon, là, Basel a dit que la plupart de ses, de l'expression, enfin, son expression est surtout métaphorique, mais qu'il a aussi parfois des choses très directes, et c'est exactement la même chose un peu partout. Mais il faut voir que aussi bien l'Internet que les télévisions par satellite ont rendu la censure complètement ridicule. Il y a quelques années, dans certains pays arabes, on découpait les journaux. Quand il y a un journal qui arrivait, par exemple, de Beyrouth à Damas ou je ne sais pas où, le censeur découpait le avec des ciseaux, quoi. Mmh. Comme, bon, c'était caricatural. Aujourd'hui, cela n'a plus de sens, parce que les gens ouvrent leur télé comme ils veulent, zappent comme ils veulent, et aussi, il y a l'Internet qui a permis, comme l'a dit Basel aussi, de relier ce qui est des gens qui sont, de maintenir le lien, d'établir des liens ou de maintenir le lien avec les autres, aussi bien à l'intérieur de la Palestine comme dans son cas, mais aussi entre des Palestiniens et d'autres Arabes, et entre les Arabes et des gens du reste du monde.
Bon, vous dites découper les articles, ça ne se fait plus, c'est ridicule avec Internet. Cela dit, on met encore des journalistes et des écrivains en prison dans les pays arabes. Dernièrement, il y a eu l'arrestation d'un journaliste écrivain en Syrie, Michel Kilo. Est-ce que vous avez l'impression que les Palestiniens de ce contexte-là, que les Palestiniens et les Palestiniens de Ramallah s'en sortent plutôt bien?
Oui, je crois qu'ils s'en sortent plutôt bien, parce que il faut dire d'abord que l'autorité palestinienne n'est pas une autorité dictatoriale comme d'autres pouvoirs dans d'autres pays arabes. Peut-être aussi sa faiblesse, je ne sais pas, j'espère que cela durera longtemps, mais en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas une répression brutale comme celle qu'on trouve partout ailleurs dans le monde arabe, aussi bien dans les pays du Maghreb que dans les pays du Mashrek au Moyen-Orient.
Oui, on peut passer à la Syrie, on peut passer à l'Égypte aussi, pas très loin. Qu'en est-il de Gaza, où le Hamas est au pouvoir? Est-ce que vous savez si là, les autorités sont plus attentives?
Oui, il n'y a pas de doute. Et cela a commencé, à vrai dire, quand le Hamas a formé son premier gouvernement. Il y a eu un début de répression. On ne peut pas dire que c'était quelque chose de très dur, de très violent, parce qu'il y a eu une réaction immédiate de la part de toute la société. Par exemple, il y a eu la tentative d'interdire un livre de contes populaires, parce que dans les contes populaires, on s'exprime très librement et qu'il y a des mots inconvenants selon le censeur. Bon, mais c'est le propre de la littérature populaire partout dans le monde. Et il y a eu une réaction immédiate des professeurs, parce que c'était aussi un livre qu'on enseignait dans les écoles, c'était comme un livre de classe. Et il y a eu une réaction. De même, on a essayé d'interdire une pièce de théâtre à Qalqidiyah, il y a eu aussi une réaction. Bien entendu, le Hamas comme groupe à idéologie religieuse a une tendance beaucoup plus marquée à interdire et à faire le perdre la morale. Quoi. Mmh.
On sait qu'indépendamment des discours officiels, les Palestiniens ne sont pas toujours bien perçus dans le monde arabe, que l'on prenne ce qui s'est passé au Liban ou ce qui s'est passé en Jordanie aussi. Est-ce que cette liberté de ton qui existe, on l'a découvert avec Ramallah Underground, est-ce que cette liberté de ton de certains Palestiniens agace des gouvernements comme le gouvernement égyptien ou comme le gouvernement syrien ou comme les gouvernements des monarchies du Golfe?
Vous savez, tous ces pays sont agacés par leurs propres créateurs qui ont exactement la même liberté de parole. Ils ne font pas croire que les créateurs égyptiens n'essaient pas aussi de bousculer les tabous. Bon, ils essayent, ils réussissent parfois, ils échouent parfois, mais des écrivains égyptiens sont très critiques. Et aussi bien de la société que du pouvoir égyptien. Et de même, c'est la même chose même dans des pays où il y a un pouvoir plus dur, comme la Syrie, par exemple. Bon, ces intellectuels, vous avez cité Michel Kilo, on peut citer d'autres intellectuels qui sont en prison, il n'en reste pas moins que des romanciers, des poètes, des artistes s'expriment et bravent la censure et bravent le pouvoir autoritaire du pays.
Mmh, comme l'auteur, je ne me rappelle plus de son nom, de l'immeuble Yacoubian.
Alal Aswani en Égypte, voilà, Aswani, par exemple.
Qu'on avait pu rencontrer lors d'un reportage au Caire, qui fait preuve d'une liberté de ton inouïe.
Oui, tout à fait. Ou d'autres, comme Sonala Ibrahim, par exemple, qui est un critique très dur du régime en place.
Mmh. On va parler avec vous, Farouk Mardambé, de cette littérature, de cette culture palestinienne dans le conflit israélo-palestinien. Ce sera après avoir écouté le texte d'un des poètes les plus connus, d'un des représentants les plus célèbres de cette culture palestinienne, c'est Mahmoud Darwish, décédé il y a quelques mois à Houston, au Texas, aux États-Unis. Deux mots peut-être sur Mahmoud Darwish avant qu'on entende un de ses textes chantés par Marcel Khalif.
Oui, Mahmoud Darwish est sans doute le poète palestinien le plus important. Pour moi, il est le poète arabe le plus important du XXe siècle. C'est un cas à part, à vrai dire, aussi bien dans le cadre de la littérature palestinienne que la littérature arabe, ou même dans la littérature mondiale. C'est-à-dire, il est très rare de trouver un poète aussi préoccupé par ses moyens poétiques, par le poétique, et avoir une popularité, une célébrité aussi importante. Mahmoud Darwish récitait ses poèmes parfois dans des stades de foot devant 20 000 personnes, il parvenait à les maintenir en place, à les intéresser, même quand il lisait des poèmes à caractère métaphysique, par exemple, comme cela est arrivé aussi bien à Rabat qu'à Damas, qu'à Beyrouth il y a quelques années. Donc c'est un immense poète et qui n'a cessé de se renouveler. Il était dans un mouvement perpétuel. Sa disparition est une très très grande perte pour la culture arabe.
Je peux confirmer le fait que des femmes de Ramallah m'ont dit qu'elles avaient la chair de poule quand elles entendaient Mahmoud Darwish.
On l'écoute.
Ah, خبزي أمي وقهوتي أمي ولمستي أمي وتكبر فيه الطفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي آه من دمعي أمي تعمد من طهر كعبك وغطي عظامي بعشب تعمد.
Voilà un texte de Mahmoud Darwish dit par Marcel Khalif, artiste très connu, lui aussi artiste, enfin très connu. Quand on recherche un tout petit peu sur les artistes moyen-orientaux, artistes libanais. Deux mots peut-être sur ce qu'on vient d'entendre, Farouk Mardambé.
Oui, bon, c'est un poème de jeunesse de Mahmoud Darwish qui a fait le tour du monde arabe parce qu'il exprime tout simplement l'amour d'un enfant à sa mère. Mahmoud Darwish dit « J'ai la nostalgie du pain de ma mère, du café de ma mère, de la caresse de ma mère. » Et ce qui, je crois, a intéressé, a, ce qui a marqué tous les jeunes de son âge à l'époque, enfin quand il a écrit partout dans le monde arabe, ce poème est très célèbre. La chanson est très célèbre, chantée par Marcel Khalife, qui est donc un luthiste et un chanteur libanais, qui a mis en musique plusieurs poèmes de Darwish, y compris des longs poèmes de sa dernière période.
Alors, vous parlez de ce poème-là, qui est un poème d'amour, de reconnaissance à sa mère. Mahmoud Darwish est connu pour avoir été un résistant, très clair, à l'occupation israélienne. Dans les minutes qui nous restent, Farouk Mardambé, ma question c'est création et résistance en Palestine. On imagine bien que la création, tout le travail artistique est un travail de résistance, mais est-ce que la littérature palestinienne, par exemple, peut échapper aussi d'une certaine manière à la pression du conflit, ou bien est-ce que le conflit infiltre tout ce qui est produit du point de vue culturel?
Justement, Mahmoud Darwish a donné l'exemple à tous les autres écrivains et artistes palestiniens qu'on peut échapper justement à l'emprise directe du conflit. Mahmoud Darwish a commencé, comme un poète de résistance. Toute sa première poésie était contre l'occupation, contre la domination d'un peuple par un autre, etc. Mais son évolution montre qu'on peut être palestinien et traiter des thèmes universels. Et en fait, ses derniers recueils, publiés d'ailleurs en français chez nous, chez Actes Sud, traitent des thèmes universels, l'amour, la vie, la mort, etc. Je veux dire, il n'y a pas de spécificité palestinienne dans la thématique. Il y a un ancrage dans le paysage palestinien. On voit il y a les saveurs, il y a les odeurs, il y a les senteurs de ce pays, mais il exprime des choses universel. Et il n'est pas le seul. Je crois que les auteurs palestiniens d'aujourd'hui, qu'ils soient poètes, romanciers, dramaturges, ont tous cette tendance. Ils résistent à l'occupation, à la difficulté, aux difficultés quotidiennes dans lesquelles ils vivent par la création et dépassent un peu leurs conditions la condition de la grande prison, si vous voulez, dans laquelle ils vivent, et pour tendre la main vers d'autres gens ou d'autres lecteurs ailleurs dans le monde. Là dernièrement, j'ai un exemple d'un auteur qui est décédé il y a quelques années, qui était de Ramallah, qui s'appelle Barghouti, Hossein Barghouti, qui était poète, romancier, qui a écrit deux ouvrages qui ont été traduits en français. Et le deuxième, Je serai parmi les oliviers, qui est un livre, je crois, de littérature universelle. Il raconte son retour au pays natal après avoir fait ses études et vécu aux États-Unis. Et il est tombé malade d'un cancer, il est mort. Et c'est un livre qui exprime un peu cet homme qui aime la vie et qui sait que sa fin est proche. Et on sent à la fois une culture universaliste, humaniste, en même temps un ancrage très très fort dans le territoire palestinien.
Mmh. Qu'est-ce qui vous fait rêver, Farouk Mardambé, vous qui recevez, j'imagine, pas mal de manuscrits, qu'est-ce qui vous fait rêver dans cette littérature palestinienne, pour ne prendre qu'elle ?
Qu'est-ce qui me fait rêver ? Ce que j'aime, moi, surtout, c'est justement cette capacité qu'ont les Palestiniens de... Il y a une caractéristique de la littérature palestinienne, c'est la dérision. C'est-à-dire, ils ont l'impression, et c'est une rêve, ils ont l'impression, parce que c'est vrai, en fait, que leur situation est particulièrement absurde. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur pays, et en même temps, ils sont étrangers dans leur pays. Et celui qui a le premier exprimé cet absurde est un auteur palestinien qui avait la nationalité israélienne, qui vivait à Nazareth, c'est Emil Habibi. Et cette dérision a un peu déteint sur l'ensemble de la littérature palestinienne. Aujourd'hui, il y a dans la littérature, dans la nouvelle et dans le roman, un humour très très particulier, c'est-à-dire qu'on rit de tout. On rit des autres, mais aussi on rit de soi-même. Et c'est quelque chose de très, comment dire, qui permet aussi de dépasser la condition difficile dans laquelle on est.
Merci beaucoup, Farouk Mardambé, d'avoir été cette heure avec nous. Je vous souhaite une excellente
Merci
journée.
À vous. Merci à vous.
Et Anne Brunswick, demain, ben justement, on parlait humour, on va reparler humour. On en parlait déjà avec le clown de Ramallah, on va en reparler demain. Humour et amour pour ce dernier feuillet de carnet de route. Où est-ce que vous nous emmenez ?
Demain, on sera à Ramallah. À la fois, on sera dans la tragédie et la réaction de colère et de deuil autour des événements de Gaza. Et puis, en même temps, on verra qu'il y a une bonne dose d'humour chez des gens qui en ont tellement vu de toutes les couleurs qu'il vaut mieux en rire.
Avec notamment Yelena, qui est palestinienne et russe, et qui nous racontera les engueulades, c'est le terme à utiliser, c'est les engueulades en russe avec les soldats israéliens sur les checkpoints. On se retrouve demain. Excellente fin d'après-midi.
À demain.
Et merci aujourd'hui à Dominique Stalder à Paris, à Isabelle Barthes ici en régie, à Stéphanie Coudray, notre assistante de production, Nathalie Schoenberg qui a choisi les musiques, Dany Sulam pour notre site dromadaire.rsr.ch, Emmanuel Villard pour le montage des reportages d'Anne Brunswick et Monsieur T qui a réalisé les carnets de route. Dromadaire.rsr.ch, où vous retrouverez des liens, notamment sur cette maison d'édition Actes Sud, où Anne Brunswick a publié son livre Bienvenue en Palestine. Après les informations, vous avez bien sûr rendez-vous avec Histoire Vivante de Jean Leclerc qui revient sur le processus de décolonisation du Cameroun. Anne Brunswick, Cyril Desprats, on vous souhaite un excellent après-midi. On se retrouve bien sûr demain, dans quelques secondes. Il va être 16h sur la place Al-Manara de Ramallah en Cisjordanie. 16h à Ramallah et 15h sur la première.